Fin de ce bulletin d'information, restez sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
L'armée de terre américaine a décidé d'autoriser des coiffures féminines adaptées à toutes les natures de cheveux. Pour une femme militaire aux cheveux longs, le chignon qui était obligatoire peut désormais être remplacé par une queue de cheval ou des tresses qui peuvent être ramenées sur la tête. Les femmes qui veulent porter les cheveux ras, voire se raser complètement la tête, en ont désormais le droit. Les boucles d'oreilles sont autorisées mais doivent rester discrètes. Elles restent interdites sur les théâtres d'intervention. Le rouge à lèvres est aussi autorisé dans des teintes neutres, de même que le vernis à ongles s'il n'est pas de couleur extrême. L'armée sud-africaine permet désormais aux femmes musulmanes de porter le foulard quand elles sont en uniforme. En janvier 2020, un tribunal militaire avait abandonné ses poursuites contre le commandant Fatima Issaks, une femme officier qui faisait l'objet d'une procédure judiciaire pour avoir refusé de retirer son foulard, comme son supérieur le lui avait ordonné. Issaks avait été autorisé à le porter à condition qu'il ne couvre pas ses oreilles et qu'il soit de couleur unie. Mais cette autorisation ne suffisait pas pour l'officier qui a attaqué en justice le règlement militaire concernant le port de vêtements religieux. La règle concernant le port de l'uniforme a ainsi été mise à jour pour permettre aux femmes musulmanes de porter le voile. Le 19 janvier 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Suisse pour avoir infligé une lourde amende à une Roumaine pour mendicité sur la voie publique à Genève. La jeune femme analphabète, sans travail ni soutien social, avait été condamnée en janvier 2014 à 500 francs suisses d'amende. Elle a été ensuite placée 5 jours en détention provisoire pour ne pas avoir payé l'amende. Étant dans une situation de vulnérabilité manifeste, la requérante avait le droit d'essayer de remédier à ses besoins par la mendicité, a considéré la Cour, jugeant ainsi que la Suisse avait violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, protégeant le droit au respect de la vie privée. La Suisse a été condamnée à verser à la requérante 922 euros pour dommages moraux. Kamala Harris est entrée dans l'histoire américaine en devenant la première femme vice-présidente des États-Unis. Catherine Gibson, correspondante de La Voix de l'Amérique au Congrès, dresse son portrait. Le récit est de Dildico.
Bien que je sois la première femme à occuper ce poste, je ne serai pas la dernière.
Kamala Harris, 56 ans, remercie Joe Biden et les électeurs de l'avoir choisie pour devenir la première femme américaine noire et d'origine indienne à occuper le poste de vice-présidente des États-Unis.
Nous avons eu des femmes à la Cour suprême. Nous avons Nancy Pelosi en tant que présidente de la Chambre des représentants, mais nous n'avons jamais eu au sommet de l'exécutif, car nous n'avons jamais eu de femme vice-présidente, pas de femme présidente. Mais au-delà, c'est une femme de couleur, une femme avec des parents immigrés qui sont venus dans ce pays pour une vie meilleure.
Fille d'une mère indienne et d'un père jamaïcain, Harris est née à Oakland, en Californie. Une peinture a été faite à son effigie sur les murs de son école à Berkeley, en Californie, qu'elle fréquentait dans le cadre de politiques d'intégration raciale.
Elle a brisé tant de plafonds de verre pour tant de femmes.
Diplômée de l'université Howard, une université entièrement noire à Washington, D.C., Harris est devenue la première femme noire procureure de San Francisco en 2004, puis procureure générale de la Californie en 2010. Lors des manifestations de Black Lives Matter au cours de l'été 2020, certains progressistes se sont plaints en disant que Harris avait été une procureure beaucoup plus stricte qu'elle ne l'avait laissé entendre, qu'elle avait pris des positions contradictoires sur la peine de mort et qu'elle n'avait pas tenu la police responsable de certaines actions. Harris est entrée dans l'histoire en Californie lorsqu'elle a été élue au Sénat américain.
Il est important que les gens voient au pouvoir des gens qui leur ressemblent.
Harris, qui parle souvent de son rôle de tante et de belle-mère, est mariée à l'avocat Doug Emhoff, qui sera désormais le deuxième gentleman, une position entièrement nouvelle dans l'histoire de la Maison-Blanche. Même si le travail le plus important pour un vice-président est d'être prêt à intervenir pour le président en cas de besoin, les analystes disent que Harris pourrait également mettre à profit ses premières historiques.
Elle pourrait être une femme d'État représentant les États-Unis dans le monde. Je pense également qu'elle voyagera à l'intérieur des États-Unis pour montrer le symbolisme de ce qu'elle fait.
Kamala Harris a donc un nouveau rôle à la Maison-Blanche, un rôle célébré à travers le monde, mais surtout à l'autre bout de la planète, dans son village ancestral, en Inde.
Parole de femme.
Le 20 janvier dernier, de nombreuses femmes du monde entier ont suivi avec attention la prestation de serment de Kamala Harris. Selon notre correspondant N'Djamena, les Tchadiennes qui se sont elles aussi intéressées à l'événement rêvent d'en voir une parmi elles occuper cette fonction conformément à la nouvelle constitution qui crée le poste de vice-président. André Kodmajingar a recueilli des réactions de femmes leaders dans son pays.
C'est une grande joie pour la jeune féminine tchadienne de voir Kamala Harris, une afro-américaine, arriver à ce niveau de responsabilité aux États-Unis. C'est une date historique pour les femmes tchadiennes, leaders d'opinion et activistes, de voir une de leur genre accéder à ce poste qui vient d'être créé au Tchad.
La femme, elle est plus pacifique, elle a des atouts, hein. Et c'est une bonne gestionnaire aussi. Et cela ne veut pas dire qu'au Tchad, ce n'est pas possible. C'est possible.
Madame Titimbay Mariam Thierry, enseignante à la retraite, pour elle, avec le monde en ébullition, il faut responsabiliser les femmes puisqu'elles sont actrices de la paix et le pilier de tout développement.
De l'économie, c'est elle. De l'éducation, c'est elle. De la santé, c'est elle. Il faut tenter avec les femmes voir. Mais au Tchad, il y a ceux qui sont pour une femme au poste de vice-président. Il y a d'autres qui disent non, il faut plutôt un arabophone. Donc il y a ce tiraillement déjà. Il faut faire donc très attention qu'on ne fasse pas des erreurs. Je vous donne un exemple très très simple. Madame Panza, de Centrafrique, là, elle a dirigé, non? Ce qui se passe actuellement au Boko Haram, si au moins on prêtait un peu de considération aux femmes, sous silence comme ça, elles vont faire disparaître certaines choses. Mais l'orgueil de l'homme, l'avarice, je ne sais pas comment qualifier certains hommes d'aujourd'hui, là.
Âgée de 56 ans, l'ancienne procureure générale de Californie, Kamala Harris, fait la fierté du peuple africain. Son exemple doit inspirer les dirigeants africains qui négligent les femmes dans la prise des décisions.
C'est une femme qui s'est affirmée dans un milieu qui a été beaucoup plus masculinisé, où la femme a eu peu d'opportunités. possibilité de s'affirmer et que là, elle est arrivée par la volonté du peuple.
Karioum Demba, militante de la société civile, pour elle, comparaison n'est pas raison.
La difficulté, c'est que nous sommes dans un système qui est un peu dictatorial. Même si, au niveau du Tchad, on a une vice-présidente femme, elle aura plus de difficultés à être entendue. Même si elle est compétente, les gens sont très conservateurs. On a des pesanteurs socioculturels et politiques qui ferment toutes les voies.
Pour Mme Bourkou-Louise Ngaradoumri, présidente du parti Rassemblement pour le Progrès et la Justice Sociale, qui a déposé sa candidature pour être nommée à ce poste, il est temps de changer la mentalité tchadienne.
Négliger une femme, c'est déjà révolu, parce que nous sommes déjà matures en politique. Mais le problème, c'est qu'on aime trop de mensonges. Qui t'a dit quoi? Qui va faire un coup d'État? Qui va faire ceci? Et si on met une administration forte en place, nous serons plus que ça. Ce n'est pas un miracle. Moi, j'ai donné ma candidature, c'est pour aider le Tchad. Nous sommes capables de conjuguer nos efforts avec nos époux pour pouvoir rendre l'économie florissante.
À ce jour, le président Déby garde toujours le suspense en ce qui concerne la nomination du vice-président ou de la vice-présidente, conformément à la nouvelle constitution du 14 décembre 2020. André Kodmadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
La Sud-Africaine Ashleigh Moolman est devenue le 9 décembre 2020 la première championne du monde de cyclisme virtuel au terme d'une course de 50 km organisée par l'Union cycliste internationale. Moolman a été la plus rapide pour faire avancer son avatar sur les routes de Watopia, l'univers virtuel où ont lieu ces mondiaux, en roulant sur son vélo d'appartement. À 34 ans, la championne d'Afrique du Sud 2020 s'est imposée d'un souffle devant l'Australienne Sarah Gigante après un effort d'1 h 13 min. Elle remporte le premier maillot arc-en-ciel de la discipline qui connaît un succès grandissant. Les jeunes tunisiennes qui se disent exclues depuis toujours du monde des platines et de la musique électronique affluent vers une académie de DJ locale qui les soutient dans leur carrière professionnelle face à un monde principalement masculin. Partons à la découverte de ce milieu artistique au féminin avec Blanche Sanou.
La Fabrique Art Studio est une académie qui forme exclusivement des étudiantes dans le mixage musical communément appelé DJ.
Quand j'ai décidé de devenir DJ et que j'ai voulu étudier ici, dans cette académie, j'ai rencontré des difficultés. Il y a des gens qui ne me comprenaient pas et certains me demandent « C'est ce que tu veux réellement faire ?»
Beaucoup d'étudiantes et d'enseignantes disent que travailler tard dans les boîtes de nuit ou les bars, le manque d'accès aux ressources de formation sont entre autres les difficultés auxquelles les jeunes filles ont été confrontées dans ce métier, des raisons qui ont motivé la création de l'académie.
En tant que DJ de femme, bien sûr que j'ai eu quelques pressions sociales, et ma famille en a eu aussi d'ailleurs, mais... J'ai eu la chance d'avoir une famille assez cool qui me supporte. Par rapport aux pressions et par rapport aux DJ femmes et au milieu considéré milieu masculin de la musique électronique en Tunisie, en fait, on a juste besoin d'éducation. On a juste besoin de changer un peu les mentalités.
En décembre 2020, dans le cadre des 16 journées internationales d'activisme contre les violences basées sur le genre en Tunisie, la Fabrique Art Studio a choisi 16 étudiantes pour se produire en ligne afin de sensibiliser à l'égalité et mettre fin à la violence à l'égard des femmes.
Les femmes sont devenues plus confiantes en elles-mêmes et aiment travailler dans ces domaines, ce dont elles avaient peur dans le passé. Et le côté positif, c'est lorsque les femmes voient qu'il y en a d'autres qui ont choisi d'être DJ et qui travaillent la nuit, cela devient encourageant. Donc, c'est une bonne chose.
La Digi Académie tunisienne a formé près de 50 étudiantes depuis sa création et s'est étendue à d'autres régions du pays.
Si jeunesse pouvait.
Au Sénégal, la plage de Barni, située à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Dakar, était envahie par toutes sortes de déchets depuis de nombreux mois. Pour y remédier, des jeunes engagés autour de l'artiste et activiste Medoune Ndoye, dit Medza, ont décidé de nettoyer ce littoral qui est devenu une décharge à ciel ouvert, déplore-t-il. Cette action citoyenne a pour but d'assainir un lieu qui concentre la majorité des activités de cette localité de pêcheurs. Un reportage de notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
Le club de réflexion et d'action citoyenne, c'est l'entité autour de laquelle des jeunes de Barni et environ se sont retrouvés pour poser des actions citoyennes afin d'améliorer le cadre de vie de cette communauté de pêcheurs. Medoune Ndoye, dit Medza, explique les causes de leur engagement.
Le littoral barnois, c'est devenu une catastrophe. C'était une bombe à ciel ouvert, quoi. Bombe écologique, en quelque sorte. Vous savez, au Sénégal, il y a un problème de gestion des déchets. Barni aussi subit un manque de criards, aussi de canalisation. Et nous avons accentué de notre combat, il faut qu'il y ait une canalisation. Au début aussi, vous savez, les femmes n'ont pas où déverser leurs ordures. Et ce qui pose problème, les femmes n'ont pas aussi la culture du triage des ordures, ça pose problème. Récemment, au niveau de l'association, on a fait une séance de travail avec l'UCG ainsi que la mairie. Mais il faut qu'on insiste à ce que les femmes font le triage des ordures. Et qu'il y ait aussi, la mairie recrute aussi des volontaires qui surveillent ça. Je crois, en premier lieu, ça peut faire l'affaire.
Pendant 48 heures, des dizaines de jeunes se sont mobilisés pour nettoyer le littoral et assainir le cadre de vie de cette localité composée majoritairement de pêcheurs. Pape Moussa Gueye est un bénévole originaire de la localité. Pour lui, les enfants de Barni doivent être les premiers sur le terrain, car ce littoral concentre leurs principales ressources.
Chacun de nous doit accomplir des devoirs sans attendre qui que ce soit. C'est pourquoi on a décidé de nous mobiliser. Nous sommes une communauté composée de 70% de pêcheurs et la mer est notre seule source de revenus. Même sans l'aide de l'État, de la mairie ou de bonne volonté, nous devons nous y mettre parce que nous pêchons dans ces eaux. Nos enfants jouent sur cette plage, nos femmes y vendent, donc c'est normal qu'on soit là en tant que jeune barnois, en tant que citoyen.
Au sein des populations, de nombreux jeunes se sont certes engagés à soutenir l'initiative, mais il reste énormément à faire. Medoune Ndoye dit Medza se désole du manque d'implication des autorités locales.
Parfois, bon, c'est un peu décourageant. Nous faisons des actions citoyennes, du volontariat. Nous sommes juste une association, mais nos compétences sont limitées. Mais je crois qu'il est très important, si nous voulons de l'impact positif, il faut que la mairie accompagne ces initiatives. De temps en temps, nous faisons des collaborations avec UCG et nous lançons des messages dans des quartiers, une campagne de sensibilisation sur le théâtre des ordures. Mais il faut qu'il y ait une mesure d'accompagnement. Mais malheureusement, si nous faisons des actes et que la mairie n'accompagne pas, ça ne va pas aboutir.
Au-delà des activités environnementales marquées par le nettoyage du littoral de Barni, les jeunes du club de réflexion étoyenne ont également réfectionné une école de la localité pour un montant de 4 600 000 francs CFA grâce à un financement participatif de 100 francs par habitant. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
Le monde au féminin de VOA Afrique. Une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes.
Le 50 km marche sera remplacé par une épreuve mixte d'athlétisme au JO 2024 de Paris. Annoncé le 7 décembre dernier, le directeur des sports du Comité international olympique, Kit McConnell. L'objectif est d'atteindre la parité dans l'athlétisme olympique sans dépasser le quota global d'athlètes. Cette épreuve est la plus longue en athlétisme dans des conditions estivales souvent éprouvantes et son histoire a été marquée par une succession de défaillances. Le nombre de participants aux Jeux va passer de 11 092 à 10 500 tout en atteignant la parité. L'épreuve mixte doit encore être définie par la Fédération internationale d'athlétisme.
C'est le monde féminin,
pas, les jeunes ou les femmes, croyez en vos rêves, rien n'est impossible, ça va se réaliser. Et inspirons-nous, créons notre histoire, l'Afrique que nous voulons voir demain.
Entre parenthèses.
Du 11 au 31 janvier 2021, un réseau d'associations dénommé Men Engage Togo a mené une campagne pour promouvoir l'équité des genres, axée sur la masculinité positive. Cette campagne s'est attaquée aux stéréotypes pour susciter une prise de conscience générale. Un reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Selon une étude réalisée par le réseau Men Engage Togo, il en ressort que les Togolais sont toujours dans la conception ancienne d'une masculinité dominante, c'est-à-dire la domination de l'homme sur la femme et sur son environnement social. Et donc, la féminité doit rester dans une position inférieure et soumise. Suite à ce constat, ce réseau s'engage dans une campagne dénommée « Suis-je un homme ?» Koku Edem Agboka, coordinateur de Men Engage Togo.
Si je ne suis pas violent, si je n'évolue pas dans une logique de domination, si je ne harcèle pas par exemple, si je n'exerce pas forcément la force pour me faire entendre, si je m'occupe bien de mes enfants ensemble avec ma femme, si je fais les travaux ménagers comme ma femme, mes enfants, ne suis-je pas un homme?
Pour cette campagne, le réseau mise sur des visuels afin de pouvoir véhiculer son message. Elsa Mbenaba, consultante féministe.
On peut voir l'image de cet homme-là qui a porté son bébé au dos. Beaucoup se diront, bon, il aurait pu le porter à la main et tout, mais c'est encore plus joli et plus engageant de voir que c'est un homme qui a son bébé au dos. Nous avons également des visuels comme un homme en train de laver ou de donner le bain à son bébé, le bain traditionnel, ce qui est encore plus frappant. On peut voir aussi des hommes en train d'accompagner leur femme en consultation prénatale. Et le but, c'est de pouvoir dire aux hommes, même en faisant tout ça, vous restez des hommes.
La promotion de la masculinité positive est un pilier de développement social, soutient Rosaline Tchekuya, du mouvement Girls Motion.
On dit une femme doit être au foyer. Donc quand une famille se retrouve à choisir entre l'éducation de leur enfant fille et de leur enfant garçon, ils préfèrent choisir le garçon, se disant que la femme, de toute manière, elle va finir au foyer. Donc ce concept de genre-là nuit gravement au développement social de l'homme et de la femme. Des fois, même quand on discute, on se rend compte que c'est l'homme qui est le plus gros perdant parce qu'il a toute cette pression sociale sur lui pour pouvoir être un vrai homme, un homme viril, etc.
Ce père de famille confie à VOA Afrique qu'il n'a aucun complexe d'infériorité à s'adonner aux tâches ménagères.
Je ne ressens aucune honte à transporter, par exemple, l'eau dans la bassine sur la tête, dans la rue, quand il y a problème d'eau dans notre maison. Je ne ressens pas de gêne à balayer devant la maison. Je suis fier parce que je me rappelle de tous les efforts que ma maman avait fait, en fait. Les femmes ont un grand rôle aussi à jouer dans la promotion de la masculinité positive.
Alors, la question se pose, qui est un homme?
On est un homme. Même si on participe aux tâches ménagères, même si on respecte sa camarade femme, son collègue femme ou sa femme même à la maison, on reste toujours un homme quand on est proche de ses enfants.
Un homme, c'est la personne qui a compris que si la femme a les mêmes opportunités que moi, c'est avant tout une chance pour moi et que je suis dédouanée aussi d'un certain nombre de choses. En gros, l'homme, c'est la personne qui a compris que la femme, c'est son égale.
Et oui, la femme est l'égale de l'homme. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.